la seule émission qui n'a pas de nom.
Bah, c'est n'importe quoi.
Tabalapapa.
Tabalapapa. Et non, cela n'a toujours pas de nom. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai pas envie d'en chercher et puis c'est comme ça. Et j'ai envie de vous dire mesdames, messieurs, mesdames et autres. Oui, j'ai dit deux fois mesdames, c'est une nouvelle forme de galanterie. Aujourd'hui, je tiens à vous l'annoncer, vous allez vivre une expérience exceptionnelle. Non, je ne vais pas synthétiser du café à partir d'iodure de paracétamol, puisque j'ai cassé mon Erlen Meyer. Aujourd'hui, 31 octobre 2011, jour de Toussaint, en direct sur Radio Bip et en différé sur le blog de l'émission, alors que dehors il fait froid, vos cœurs vont se réchauffer grâce à un événement majeur dans le monde de la radio. Oui, ici même, ce matin, vous allez vivre une expérience inédite sur les ondes. Accrochez-vous bien, c'est une première mondiale, voire intergalactique. Aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre la première comédie musicale radiophonique. Et si ce n'est pas la première comédie musicale radiophonique mondiale, voire intergalactique, il s'agit probablement de la seule et unique comédie musicale radiophonique qui n'a pas de nom au monde, voire dans la galaxie. Et si ce n'est pas le cas, il s'agit probablement de la première comédie musicale radiophonique qui n'a pas de nom et qui a été écrite et enregistrée en moins de 48 heures par une seule personne avec des logiciels de musique craqués. Je vous sens trépigné d'impatience derrière votre poste à l'instar d'un facteur qui attendrait une prostituée derrière son lieu de travail. Mesdames et messieurs et mesdames et autres, vous remarquerez que j'ai utilisé deux fois la même formule de galanterie. Donc mesdames et messieurs et mesdames et autres, voici enfin la première comédie musicale qui n'a pas de nom, écrite et enregistrée en moins de 48 heures par un seul homme, juste après une petite page de pub. Oui, j'ai envie de faire mariner le public comme sur TF1. Allez hop, temps de cerveau disponible, enclenché.
La pub ?
Oui, bonjour, voilà. En fait, je me dénomine Jean-Luc La Pub. Et je collectionne des herbes que je range dans un herbier. Je collectionne aussi des papes que je range dans du papier.
Oh, ta mère, la pub !
La pub !
Allez, on y va. Mesdames et messieurs et mesdames et autres, voici enfin la première comédie musicale qui n'a pas de nom, écrite et enregistrée en moins de 48 heures par un seul homme, juste après une petite page de pub. Alors, on n'est pas encore au niveau de TF1 d'Europe 1 sur la pub, hein, je vous rassure.
La pub ?
Oui, bonjour, je suis Jean-Luc, la pub.
Eh, regarde la pub sur le trottoir !
Monsieur la pub, vous n'auriez pas une petite barre chocolatée ? J'ai faim. Tiens, mon petit SDF tout sale, voici une barre chocolatée qui n'a pas de nom. Du bon chocolat bien sucré, du sucre, du caramel qui en fait est du sucre chauffé. Et en plus, de bons glucides. Allez, mange ça, petit SDF tout sale.
Oui, je connais bien, je mange que ça.
C'est trop bon. Par contre, j'ai plus de dents. Et si ce n'est pas indiscret, mon petit SDF tout sale, pourquoi il vous manque un bras ?
Bah, c'est le diabète, à cause des barres chocolatées qui n'a pas de nom. Mais ça m'arrange. Comme ça, je peux récupérer les t-shirts à une seule manche.
Les barres chocolatées, c'est bon. C'était Jean-Luc la pub.
Oh ta mère, la pub !
La pub. Voilà, j'espère que tout cela vous aura ouvert l'appétit et que vous êtes tous munis de votre barre chocolatée qui n'a pas de nom, car désormais, je vous l'annonce officiellement, vous allez enfin pouvoir entendre la première comédie musicale radiophonique qui n'a pas de nom, écrite et enregistrée en moins de 48 heures par un seul homme. Ça va, c'est concis comme titre. Je crois que nous avons plutôt envie d'appeler cette œuvre « J'appelle nous tous les gens présents dans mon cerveau », à l'exception de celui qui me fait tout le temps faire des roulades, qui a tenté d'y opposer son veto. Mais malheureusement, il ne dépose que d'un veto roulant, donc nous appellerons cette œuvre « La comédie musicale radiophonique de la Toussaint ». Ça pète plus. Ça fait plus « American Broadcast Mainstream Apple Pie ».
Seule émission qui n'a pas de nom, 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 seule émission qui n'a pas de nom. Pas de nom, c'est la seule émission qui n'a pas de nom, c'est la comédie musicale ce soir. Enfin plutôt ce matin, désolé de vous l'apprendre, mais c'est la fête dans vos enceintes, non ne vous inquiétez pas, wow. C'est l'émission qui n'a pas de nom, et c'est la comédie musicale. Je me suis pas foulé pour les paroles, et j'ai pas embauché de chorale. Mais c'est comme ça ce matin, on va bien s'amuser, ça va être trop bien. Yeah, j'ai envie de sortir mes maracas et de faire chica 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 chica.
Acte 1, scène 1. Tout commence dans une forêt, dans un pays fort fort lointain. dont le nom a été oublié de nos jours. Ou alors, les auteurs de cette œuvre n'ont pas souhaité faire l'effort d'imaginer un nom pour ce pays. La scène se déroule aux environs de jadis avant Jésus-Christ. Ou après, je ne sais plus. Un artiste engagé du nom de... Ah, les auteurs n'ont pas cherché de nom ni même de surnom à ce personnage. Nous l'appellerons pour les besoins de l'histoire et en toute simplicité. Ce jeune artiste engagé et en toute simplicité ne trouvait plus sa place à la cour. Ses pierres grisâtres ne donnaient plus d'idées de chansons à ce jeune artiste. De plus, tout le monde le raillait à la cour depuis sa dernière chanson où il osa comparer le roi à un tigre alors que celui-ci était allergique au chat. Pour la peine, il a été privé pendant une semaine de l'admiration des selles de sa majesté. Et dans un esprit de simplicité, avait besoin de se ressourcer, d'aller au fond des choses. C'est pourquoi il décida de se retirer dans la forêt de l'oubli. Nul n'ignorait en ces temps, je le rappelle, autour de jadis après Jésus-Christ, nul n'ignorait en cette époque que peu de personnes ne revenaient de la forêt de l'oubli. Seuls les sept nains avaient réussi à en sortir. Bande de sales racistes anti-petits nains. Vous pensiez qu'ils avaient réussi grâce à leur petite taille. Ne faites pas les innocents. Eh bien non. Les sept nains avaient réussi à sortir de cette forêt grâce à leur talent de mineur. Ah oui, j'ai oublié de prévenir, ça commence comme un conte pour enfants, mais c'en est pas un du tout. Hein. Je tiens à signaler à tout enfant écoutant cette émission qu'il sera privé de cadeaux de la part du Père Noël, car c'est la crise. Il faut être solidaire avec les Grecs. Mais surtout, si les enfants écoutent, ils risquent d'entendre de très vilains mots du type « bite »,« chatte », »,« couille » ou encore même « Sarkozy ». Même si Sarkozy n'existait pas du temps de jadis autour de Jésus-Christ. Je me permets des anachronismes, c'est mon droit. Revenons à notre conte, pas pour les enfants. Bite, chat, couille, Sarkozy. Dès que, et en toute simplicité, pénétra dans la forêt de l'oubli, il se dit qu'il marcherait jusqu'à en trouver l'inspiration. Il regardait les feuilles des arbres, mais l'inspiration ne venait pas. Il contemplait le tronc des arbres, mais l'inspiration ne venait toujours pas. Il tenta d'admirer ses selles, afin de faire comme à la cour, mais la consistance n'en était pas aussi inspirante que celle de son Altesse Sérénissima Williams. À ce moment, et en toute simplicité, était complètement désespéré. Lorsque soudain, il aperçut un calendrier. Et soudain, l'inspiration vint déferlant comme plaie d'hémophile. Et un petit air de batterie résonna. Et en toute simplicité, puis se mettre à expulser ses démons.
Demain, c'est la fête de tous les saints. C'est pour ça qu'on l'appelle la Toussaint. C'est pas con, hein. Demain, c'est la fête des morts aussi. Qu'ils furent grands ou bien petits, comme Sarkozy. Ils nous ont quittés. Mais faut pas pleurer. Car maintenant, tous enterrés, ils nous font plus chier. Pas comme Sarkozy. Ces enculés de mort, je les traiterai de porc. Si l'on pouvait les manger, ces enfoirés, ces enculés de mort, je les traiterai de porc. Si l'on pouvait les manger, ces enfoirés. Oui, je le sais, c'est engagé de disserter sur les gens décédés.
Oh diable, c'est engagé.
Mais vous savez quoi? Mes yeux n'ont jamais froid, et c'est pourquoi je n'hésite pas à le crier sur tous les toits que je n'aime pas comme Sarkozy. Ces enculés de mort, je les traiterai de porc. Si l'on pouvait les manger, ces enfoirés, ces enculés de mort, je les traiterais de porc. Si l'on pouvait les manger, ces enfoirés,
enculés de mort.
Je me doute bien que dès demain, je vais recevoir des tonnes de courriers
j'ai hâte. J'espère que dans ces courriers, on menacera de me tuer. Mais cela ne risque pas de m'arrêter, car je vais vous le dire, je ne suis pas effrayé. Tout comme par Sarkozy, par ces enculés de mort, je les traiterai de porc. Mais eux, on peut même pas les bouffer, ces enculés. Ces enculés de mort, je les traiterai de porc. Mais eux, on peut même pas les bouffer, ces enculés.
Acte 1, scène 2. Était-il allé trop loin ? S'attaquer aux morts risquait de les vexer. On connaît tous la susceptibilité des personnes décédées. Mais, et en toute simplicité, était heureux. Il avait sa chanson engagée qui pourrait créer le buzz à la cour du roi. Il se voyait déjà admirant la selle royale comme jamais, tellement heureux de pouvoir retrouver ce privilège. Cependant, la forêt de l'oubli, comme dit précédemment, est un lieu d'où seul un groupe de 7 personnes de petite taille ont pu ressortir. Et en toute simplicité, notre artiste engagé pensait que si sept mineurs de petite taille avaient pu sortir de ce bois, lui aussi le pouvait. Alors il chercha la sortie. Mais à chaque arbre dépassé, il lui semblait retrouver le même paysage. Alors il regarda à droite, le même paysage. À gauche, le même paysage. Derrière, le même paysage. Et en toute simplicité, il était assez con pour pénétrer dans la forêt de l'oubli, mais il n'était pas si con qu'on aurait pu l'imaginer. En effet, il pensa à faire une marque sur l'arbre se trouvant à sa droite. Il fit ensuite demi-tour et scruta le paysage. Lorsqu'il posa les yeux sur l'arbre se trouvant à sa nouvelle droite, celui-ci était marqué de façon identique que celui qu'il marqua à 180 degrés précédemment. 180 degrés ne signifie pas que « et » en toute simplicité ait utilisé un système de pyrogravure maintenu à une température de 180 degrés. 180 degrés marque l'angle de rotation du corps de « et » en toute simplicité. C'est d'une clarté absolue. Tout comme le silence qui imbibait les oreilles de « et » en toute simplicité. Soudain, mot de liaison qui sert à annoncer qu'il se passe quelque chose. Soudain, il se passe quelque chose. C'est juste pour vous montrer comment on l'utilise. Soudain, le silence fut brisé par des craquements de feuilles suivis par des cris lointains.
« Vas-y, t'es où là, enculé ?»
Ces cris étaient à l'origine du Sieur Lacaira, vice-roi du XCIII, autrement dit 93 en chiffres romains. Il était visiblement remonté, le Sieur Lacaira. Que dis-je ? Il était excédé. Une goutte de sueur perlait sur sa tempe et ses mâchoires étaient crispées.
« Oh, enculé, t'es où ?»
Les manières du Sieur Lacaira n'étaient pas connues pour être douces. On dit qu'il mangeait le kebab à même la broche brûlante. Oui, en jadis, autour de Jésus-Christ, il mangeait du kebab. Il n'est pas né très loin de la Turquie et de la Grèce, Jésus-Christ. Hein. Les cris du Sieur Lacaira semblaient de plus en plus proches à l'oreille dès en toute simplicité, notre artiste engagé. Pris de panique, il se blottit contre un arbre et commença à se frotter dessus. Des pratiques très communes du temps de jadis autour de Jésus-Christ. Tout à coup, autre expression de liaison permettant de faire croire qu'il va se passer quelque chose, et en toute simplicité prit son courage à deux mains et se dit qu'il serait probablement plus aisé de sortir de la forêt de l'oubli à deux. Le nombre doit être important, se disait-il, puisque les nains étaient sept. Il alla donc à la rencontre du Sieur Lacaira qui lui demanda instamment si c'était lui qui venait de chanter la chanson « Contre les morts ». Tout fier et en toute simplicité le lui avoua. Voici la suite.
« Oh mec, c'est pas bien ce que tu viens de dire sur les morts. » Tu sais ce que j'en fais des gens comme toi ? Regarde, fils de pute, va. Puté, fallait pas dire mal sur les morts. Ouais, je t'ai puté. Est-ce qu'il t'avait fait du mal, les morts ? Les morts, les morts, les morts. Ouais, je t'ai puté, mais avant, j'aurais dû. Amputé, enculé, enfoiré, enfluré. Y'a pas de moi assez fort pour qualifier ce que t'es. Tu te rends pas compte qu'insulter des morts ça peut les traumatiser à vie. Donc ni une ni deux, j'avise et vise droit pour la sortie de crise. J'aiguise mon œil, affûte ma respiration. T'es dans mon viseur, il te reste maintenant qu'à serrer le troufion. Je t'ai buté.
paralysé par là, je veux pas dire que ta tête est en pédalisme, mais tu peux juste plus te bouger. Je lève mon gun vers le ciel et t'es apeuré, c'est bien fait, fallait pas profaner la mémoire des défunts, mais fait pour faire de l'ascendance que le faux faute. Mon faux foule sur l'oreille, mon pistolet sur les yeux. Fais ta prière, tu vas revoir les fieux.
Je t'ai buté. Fallait pas dire mal sur les morts. Ouais, je t'ai buté. Est-ce qu'il t'avait fait du mal, les morts? Les morts, les morts, les morts.
Enculé, pourquoi tu viens de bouger ta tête? Crois-tu longtemps pouvoir me résister? Fallait pas débiter des conneries sur les décédés, j'ai cédé. Pas de chance de tomber sur un obsédé. T'es possédé par le démon, je dois te purifier par essence. Je suis sauveur, laisse-moi venger les damnés. Malgré des mouvements de reptiles sur le sol, tu t'affoles. Mon code est prêt pour que ton âme décolle.
Je t'ai buté. Fallait pas dire mal sur les morts. Ouais, je t'ai buté.
Enfin ton sang sur le sol se répand. Je suis soulagé, tu pourras plus maintenant insulter la mémoire des Maccabées. Plus qu'à tirer en l'air pour que ce soit fêté.
Acte 1, scène 3. Et en toute simplicité, avait enfin pu quitter la forêt de l'oubli. Enfin juste son âme, car son cadavre en nourrirait la végétation avec nombre de ses congénères. Sa chanson, dont il était si fier, restera dans la forêt de l'oubli. Le sieur Lacaira était soulagé. Ses muscles faciaux semblaient nettement plus relâchés, tout comme les muscles des autres parties de son corps. Mais je ne vois pas l'intérêt d'en parler, car seuls ses muscles faciaux étaient visibles. Bien que le fait de savoir si ses sphincters étaient eux aussi relâchés revêt une importance non négligeable, nous n'en parlerons pas, la radio ne permettant pas de faire partager aux auditeurs les odeurs. Néanmoins, j'aurais pu passer un extrait sonore de flatulence qui aurait donné à ce conte un petit humour à la française. Trêve de discussion musculo-faciale. Je ne pensais pas utiliser un jour ce mot. Le sieur Lacaira, lui, s'était retrouvé dans la forêt de l'oubli pour échapper à un contrôle d'identité des gardes de la sécurité royale. Son royaume du XCIII, autrement dit 93 en chiffres romains, je le rappelle, ce royaume n'était pas reconnu par l'odieux Nabothiran. Comme vous avez pu le remarquer, le sieur Lacaira sait faire appliquer les règles de respect auxquelles il croit en négociant avec de sympathiques petites insultes et autres gentillets coups de feu. Le sieur Lacaira, repu de son exécution, décida de s'allonger quelques instants. Or, son nez, arrivé à 1 mètre du sol, repéra une odeur qu'il n'avait pas humée depuis des mois, voire même des années. Il ne savait plus depuis combien de temps il était dans la forêt de l'oubli. Car, dans la forêt de l'oubli, même le temps s'évanouit, dit l'adage de nos ancêtres que je viens d'inventer au débeauté. À ce moment, le sieur Lacaira, roi du XCII, s'écria.
« Ouah putain, j'hallucine! Ça sent la chatte, la chatte, la chatte, la chatte, la chatte, la chatte !»
Les sens en éveil du sieur Lacaira ne se trompaient pas. À quelques pas de là se trouvait la princesse. Ah, la princesse... Ah non, désolé, elle a pas de prénom. La princesse n'avait pas de prénom car elle était la moins débrouillarde de toute sa fratrie, ou sa sororie devrais-je dire, car elle n'avait que des sœurs. Ses parents ne lui donnèrent pas de prénom, ni même de chambre, et encore moins de toilette. Et c'est ce manque de sanitaire qui fut pénétrer la princesse dans la forêt de l'oubli. En effet, elle y est entrée pour soulager un gros besoin naturel à l'abri des regards indiscrets, et s'en est ainsi retrouvée prisonnière. Elle semblait prédestinée pour atterrir dans ce bois dont personne ne revient, cette forêt de l'oubli. Elle qui était déjà tant oubliée par ses proches depuis même sa naissance. Mais au fond d'elle, elle ne voulait qu'une chose.
Je suis la princesse avec ma petite voix. Dans une comédie musicale, c'est mieux comme ça. Je ne parle pas de la petite voix. Mais une princesse dans une comédie musicale, il en faut une ma foi. Je suis perdue dans la forêt. C'est pas très original, oui je le sais. C'est normal, je suis une femme. Mes facultés intellectuelles sont limitées car je ne pense, oui je ne pense qu'à l'amour, qu'à l'amour. Oui je ne pense qu'à l'amour, amour. Oui je ne pense qu'à l'amour, qu'à l'amour. l'amour. J'aimerais tant trouver le prince charmant, pour rigolo sympa avec de jolies dents. Mais perdu dans la forêt, ça va pas être de la tarte aux raisinets. Si je trouvais le prince charmant, je le prendrais dans mes bras et je vérifierais ses dents. Parce que les dents sales, moi j'aime pas ça. Mais je ne pense qu'à l'amour, qu'à l'amour. Oui, je ne pense qu'à l'amour. Oui, je suis une princesse, j'aime l'amour. Je ne pense qu'à l'amour, qu'à l'amour. Oui, je ne pense qu'à l'amour. Après vérification de ses dents, je le prendrai à pleine bouche, puis me saisirai de
son sûr
et le mettrai dans ma bouche. Nous aurons beaucoup d'enfants, mais je ne m'en occuperai pas, car le rôle de maman pour une princesse n'existe pas. Car elle ne pense qu'à l'amour, à l'amour. Et les enfants sont des obligations. Ah, mais oui, c'est vrai. Tiens, il y a un monsieur là. Bonjour, monsieur. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Ah, si, je suis perdue dans la forêt. Je suis une princesse. C'est difficile, vous savez. J'aimerais beaucoup qu'on m'aide. Mais je ne sais pas comment qu'on fait qu'on m'aide. Merci, monsieur. Oh, mais quel est ce cadavre à côté de vous?
Acte 2, scène 1. Le sieur Lacaira avançait d'un pas plus que décidé. Ses pupilles étaient dilatées. On aurait dit qu'il venait d'ingérer la dose maximale d'amphétamine qu'un homme puisse recevoir. C'était la testostérone qui le rendait ainsi. Les phéromones émises par la princesse le transcendaient. Ses jambes marchaient seules en direction de la princesse, qui pourtant se trouvait encore à des lieues de là. De temps à autre, sa virilité au maximum de ses possibilités l'empêchait de passer entre deux arbres. Malgré le manque de place et les douleurs engendrées, le sieur Lacaira ne se laissait pas démonter. Son regard était de plus en plus animal. De sa bouche sortaient de nombreux borborythmes auxquels se mêlaient quelquefois des sons quasi intelligibles du type « Il la sentait, il la voulait, sa nouvelle voiture qui n'a pas de nom avec volant en option offert. Oups, désolé, c'était une demande des produits qui n'a pas de nom et de Jean-Jacques la pub. Allez, paye la pub, elle est pas chère. » Pendant ce temps, la princesse se sentait seule. En même temps, elle avait toujours été seule. Elle avait quand même une conversation par semaine avec le prêtre. Enfin, une conversation. Ce n'en était pas vraiment une puisqu'elle n'avait pas le droit à la confession, ses parents ayant oublié de la baptiser. Mais elle avait tout de même chaque semaine l'occasion d'entendre le prêtre parler. Parfois même, il la regardait en même temps. Et même des fois, il la regardait avec un air concupiscent, avait-elle l'impression. Cependant, après une étude de l'histoire, il s'avéra que ses regards étaient adressés au cousin de la princesse âgée de 5 ans. La princesse, elle, ne sentait pas les pourtant très nombreuses phéromones dégagées par le sieur Lacaira qui se rapprochait d'elle à grands pas. Elle continuait de penser à l'amour, à un chevalier avec une dentition parfaite, étincelante, dans laquelle il faudrait éviter de regarder le jour d'une éclipse solaire sous peine de brûler son cerveau. Ou au moins quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui lui donnerait un prénom, quelqu'un qui jouerait à la marelle avec elle, ou au loup, ou à Chabit, ou à la roulette russe. Tous ces jeux auxquels tout le monde s'adonnait à l'époque d'à peu près jadis autour de Jésus-Christ. Lorsque soudain, retour du mode de liaison permettant de faire croire qu'il se passe quelque chose dans l'histoire, la princesse vit apparaître au loin le sieur Lacaira, toujours dans le même état d'excitation dans lequel nous l'avions laissé.
Oh, mademoiselle son Altesse la princesse. Putain, là, je te vois là passer dans la forêt perdue. Putain. Ouais, je me dis, dans ma tête, ouais, faut que je te le dise franchement dans ta gueule.
Oh putain, con du bois. 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 Oh putain, con du bois.
Putain, princesse, tu me fais kiffer. Je veux directement te démonter.
putain princesse, je vais te faire kiffer, je vais directement te retourner.
Emile, excuse-moi, tu gardes ton papa à la princesse comme ça. Tu vas petit t'excuser ou sinon je vais t'ignorer.
Ok, excuse-moi princesse, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une paire de fesses et je te prie de m'excuser de t'avoir autant outragé.
Je t'excuse d'avoir parlé de moi sans me chouer. Un peu énervé, rappelle-moi jusqu'à la porte, je suis perdu dans cette forêt.
Chacha, rumba, je fais ce que tu veux, princesse. Merengue, valse, rumba, voire carrément des danses de mest.
Ça existe vraiment, ça, je te garantis, je connaissais pas.
Non, c'était un peu pour la rime, mais aussi surtout pour la frime.
Tu fais ça pour me charmer, je me sens quand même un peu touché. Excuse-moi, ton gros chevalier, mais tu dois bien te rapprocher. Tu dois bien te rapprocher. Tu dois bien te rapprocher. Tu dois bien te rapprocher.
Fantastique qui se passe très loin dans le passé.
Je vois pas trop où tu veux en venir, pourrais-tu donc m'expliquer?
La femme n'a pas le choix ici, et oui, nous sommes dans le passé. Tu devrais être plutôt surprise que je ne t'ai pas encore violée. Encore violée, encore violée, encore violée, encore violée.
Acte 2, scène 2. Finalement, après tout de même vérification de la dentition du sieur Lacaera, la princesse devint moins farouche. Le sieur Lacaera, malgré son attitude de bougre, ne força aucunement la princesse. Ils se mirent même à discuter tous deux. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas parlé. Enfin, ils en avaient l'impression car le temps s'évanouit dans la forêt de l'oubli, comme l'adage populaire que j'ai inventé auparavant le dit. Ils se racontèrent leurs existences et se rendirent compte qu'ils s'étaient retrouvés ici car ils étaient différents. Ils étaient rejetés par les puissants. Ils en vinrent au fait qu'ils avaient peut-être mérité de se retrouver dans la forêt de l'oubli. Peut-être était-ce leur destin de se retrouver ici. Leur conversation ne s'arrêtait plus, mais au loin, ils entendirent des bruits menaçants d'armures et de trompettes guerrières. Quoique avec une note bien aiguë, ou encore pire, avec une suite de notes aiguës bien dissonantes, soufflées avec force à même l'oreille d'une personne, cela peut occasionner de lourdes lésions sur les tympans. Le sieur Lacaera commençait à bouillir intérieurement. L'idée qu'un concurrent puisse venir lui chuper la princesse le bouleversait. A l'inverse, la princesse était intriguée. Ses trompettes guerrières résonnaient-elles aux côtés d'un vrai prince charmant, romantique, avec des dents encore plus scintillantes que celles du sieur Lacaera, qui, pour la princesse, était bien mais pas top. De plus, le sieur Lacaera n'avait pas de trompette accompagnant ses pas. Elle demanda donc au sieur Lacaera d'aller voir ce qu'annonçait ce cuivre. « T'entends pas que c'est un cuivre belliqueux, princesse? Cela peut être dangereux, sa race la pute !» lui rétorqua le sieur Lacaera. La princesse lui répondit « Et je ne vous ferai pas l'affront de faire la voix de la princesse en direct, de peur de froisser vos tympans telle une trompette belliqueuse. Bon allez, je le fais tout de même. » La princesse lui rétorqua « J'y vais toute seule, si tu tiens à moi, tu me suivras, afin de me protéger. » Elle avait raison. Le sieur Lacaera l'a suivi, retenant sa haine au plus profond de lui, prête à la faire jaillir sur ce concurrent infâme. Ce concurrent n'était plus loin, vêtu de son armure, son épée frappant sur sa jambe gauche et un énorme corps tapant sur sa jambe droite. De temps à autre, il regardait dans un fourré ou examinait une pipe de pain. Puis tout à coup, il se saisit de son corps.
Mesdames et messieurs et mesdames, veuillez accueillir par la présente... En ma charmante compagnie, veuillez accueillir mon humble personne, veuillez vous prosterner face contre terre. Je me nomme Tarabuche, roi du Navarin d'agneau et de la blanquette de veau et sainte grue, et je suis en quête d'une quête ou d'une princesse, en quête d'action comme on dirait sur la TNT. Oh yeah. Je suis Tarabuche. Et je peux vous dire que je suis pas un sac à puce. Ben non, parce que je me gratte jamais. Je suis chevalier. Je peux vous dire que j'ai une belle épée. Ah oui, elle est très belle. Je coupe du saucisson des fois avec. Je suis en quête d'une quête. Parce que sinon j'ai pas de quête. Mais j'ai quand même une quéquette. Je cherche la princesse aussi. La princesse de ma vie. Avec des gros tétés. Des gros tétés. Je trouverai jamais ce que je veux. Parce que sur ma langue j'ai ce feu. Et j'arrive pas à le raser, c'est embêtant. Je trouverai jamais ce que je veux. Parce que sur ma langue j'ai ce feu. C'est même carrément une forêt. Une touffe de poils. Je suis dans la forêt et je suis effrayé. Car j'ai peur des arbres et des sangliers. Ils ont des grosses cornes, ça fait très très peur. Très très peur dans la tête. Je suis quand même le roi du Navarin d'agneau. Respecte mon drapeau. Maintenant, il y a un cordon bleu dessus. De quête je ne trouve pas. Pourtant, j'ai cherché même souvent des ça. Et j'ai pas trouvé de meilleure rime. C'est comme ça. Comme les ça. Je trouverai jamais ce que je veux. Parce que sur ma langue j'ai ce feu. Et j'arrive pas à le raser, c'est embêtant. Je trouverai jamais ce que je veux. Parce que sur ma langue j'ai ce feu. C'est même carrément une forêt. Une touffe de poils.
Acte 2, scène 3. Le sieur Lacaera ainsi que la princesse ne s'étaient aucunement prosternés devant Tarabuche, roi du Navarin d'agneau et de la blanquette de veau et chantegrue. A l'inverse, ils avaient un petit sourire moqueur. Le défaut de prononciation de Tarabuche en était la raison. En effet, dans les temps d'à peu près jadis autour de Jésus-Christ, il était de bon ton de se moquer des ozotements. En son palais du royaume du Navarin d'agneau et de la blanquette de veau et chantegrue, personne n'osait se moquer de Tarabuche, car il le craignait, il était le roi, et en tant que sujet, il lui devait le respect. Or, un jour, Tarabuche reçut un émissaire étranger. Celui-ci se mit instantanément à rire à l'entendre du cheveu sur la langue de Tarabuche. Gêné, il s'en alla sans même avoir pu remettre la missive à Tarabuche. Tarabuche se remit alors en question. Il en finit par conclure que l'émissaire se moquait de lui car Tarabuche, malgré son titre de roi, n'avait encore accompli aucun fait d'armes. De plus, il n'avait pas de femme. C'est pourquoi il décida de sortir de son royaume afin de trouver une quête. Dès qu'il fut sorti de son royaume et qu'il s'adressait à une personne, celle-ci lui riait au nez. Et même certains, trouvant tellement drôle la prononciation de Tarabuche, le suivaient partout en riant et en le montrant au doigt. Sauf les manchots, cela va de soi, aurait dit le chanteur anarchiste gérontophile moustachu. À force, ils furent des milliers à suivre Tarabuche, qui lui pensait toujours que son manque d'aguerrissement faisait rire ses badauds. Mais cette file de moqueurs l'incommodait fortement. À part un humoriste, qui aimerait voir des milliers de personnes rire de soi? Quoique, même un humoriste serait incommodé par une foule qui rit de lui constamment, jour et nuit. Un jour, afin de se débarrasser de cette foule moqueuse, Tarabuche jeta au loin une pierre et s'enfuit dans la forêt la plus proche. Il ne se doutait aucunement qu'il s'agissait de la forêt de l'oubli, dont il ignorait totalement l'existence, n'ayant pu échanger avec personne, tout le monde se moquant de lui.
Tarabus fut tout tourneboulé en croisant le regard de la princesse. Il se dit que c'était sûrement elle qui deviendrait sa reine, et qu'ainsi, plus personne ne se moquerait jamais de lui, car il aurait une femme. Tarabus décida ainsi de se mettre à genoux devant la princesse, afin de lui déclarer sa virevoltante flamme, ce qui ne fut pas du goût du sieur Lacaera.
Tu vas t'arpoter les fesses. Essaye donc de nouveau de t'en approcher, au risque de te voir réduire en purée. Ah non, tu ne pourras même pas y assister, tellement ma célérité est élevée. Je pourceau, je suis Tarabus, roi du Navarin d'agneau et de la blanquette de 100 degrés. Bon, si tu veux me foutre par terre, va falloir te lever tôt. Je vais compresser ta tête, piste de Danito. Cette princesse est à moi, car moi tu roi et toi t'es rien, car t'es pas quitté. Alors tais-toi, désormais tu n'as plus qu'à passer ton chemin. Va-t'en maintenant, va-t'en maintenant. Tu m'as pris, pourquoi? Oh, je suis sur la Kaira. Je règne sur un royaume dénommé le 9-3, c'en est trop pour moi. Je te jette mon gant, ça t'apprendra. Petit gland, tu provoques en duel, je n'attendais que ça. Tu vas goûter le fer de mon épée, prépare-toi, mon serviteur. La Kaira, car ça non, un magnifique combat. Alors j'avance doucement pour faire le beau, histoire que la princesse me voit en héros. De rouler mécanique, un moteur de Ferrari, ou un moteur de Suzuki, ou un moteur de Lamborghini, ou un moteur de Maserati, ou un moteur de Kawasaki. De rouler mécanique comme un moteur de Marquand, il ça fait le beau. Mais c'est même pas capable de faire le show. Mes patates sur ta gueule, telle du faire chaud, te brûlerait. T'as de la chance que je n'ai pas d'épée, car je t'aurais ridiculisé. Ridiculé bien assez, sans même une arme en main. Je m'approche de toi, j'ai peur de rien. Je suis comme ça, et prends celle-là. Je te l'envoie avec tous les compliments du 9-3.
Ne vous battez pas,
silence.
Ne vous battez pas, ne vous battez pas.
Je suis prêt,
si c'est pour moi. Ne vous battez pas,
toi.
Non, vous battez pas, ne vous battez pas.
C'est pour toi. Excuse-moi, mais t'es en train d'essayer de me mettre une patate. Ne vois-tu pas que j'ai une épée dans les pattes? Même épaté de voir de ta part tant d'imbécilité. Ça ne nous empêchera pas de voir tomber ta main trempée. Enculé, tu m'as coupé. On a pu voir du sang gicler. Là, je suis vraiment trop remonté. Oh, Tarabus, je vais buter.
Ce combat est bien trop facile. Je ne pensais pas ma lame si habile. Mon serviteur, la Kaira. Prenez donc ce coup d'épée là.
Je t'ai esquivé et j'ai le temps de sortir mon pistolet. Il ne me reste plus qu'à l'armée.
Ha ha, ton arme s'est enrayée. Ne me reste plus qu'à mettre mon épée sous ta gorge et de te menacer. Yeah, j'ai gagné.
Acte 3, scène 1. Suite à cette cuisante défaite, bougre, mais tout de même noble, le sieur Lacaera décida de quitter la princesse pour la laisser avec le vainqueur du duel. Il marcha des heures, et il était tellement triste que ses larmes ne pouvaient sortir. Il pleurait à l'intérieur. Il s'en voulait tant, pourquoi perdre un duel? Pourquoi avoir choisi une arme telle que le pistolet dans un conte fantastique se déroulant au temps d'à peu près jadis avant Jésus-Christ ou après? On ne sait plus. Je crois bien que personne ne l'a jamais su et que donc personne ne le saura jamais. À moins de retrouver les restes de, et en toute simplicité, l'artiste engagé mort au début de l'histoire et de les dater au carbone 14. Trêve de sciences archéologiques. Notre sieur Lacaera, qui n'avait pas besoin d'une telle humiliation pour s'énerver, frappa de toutes ses forces dans les arbres jusqu'à en avoir les poings en sang. Dans son esprit, il revisionnait les moments où il vit la princesse s'en aller au bras du fourchu Tarabus, comme il avait décidé de l'appeler désormais. Ça le mettait en rage, il se mit à courir le plus vite qu'il pouvait, sans but, en hurlant tel un pourceau dont une personne essaierait d'utiliser la queue pour déboucher une bouteille de vin avec un magnifique bouchon de liège. Déjà, être perdu seul dans la forêt de l'oubli fut une lourde épreuve pour le Sur la Kaira, avant de rencontrer la princesse, puis le temps avec la princesse fut si intense qu'il ne souhaitait plus jamais la quitter. Or, ce gredin de fourchu de Tarabus lui avait subtilisé la princesse, après lui avoir infligé une terrible honte suite à ce combat où le Sur la Kaira n'a brillé que par son idiotie et sa malchance. Maudite forêt de l'oubli, maudite existence que je vis, sa race la pute! Se disait-il. Plus personne n'était là pour écouter ses jurons, et il pensait que plus jamais il ne verrait personne, et que surtout plus jamais il ne humerait les doux parfums de la princesse. « À quoi bon vivre, sa race la chienne ! » s'écria le Sur la Kaira. Il ressortit son arme à feu, cette même arme à feu qui s'était enrayée, un pistolet d'un chrome luisant, tellement luisant qu'il se brûla l'œil à cause d'un reflet du soleil. « Aïe ! Mais pourquoi elle sort sa charme sur moi, sa mère la gouine ?» hurla le Sur la Kaira. Il regarda, mais plus prudemment, de nouveau son arme. Un détail sur celle-ci l'intrigua, et ainsi il se rendit compte que sa défaite, sa honteuse, son humiliante défaite... « Oh, c'est bon, on a compris, ta race la pute de gouine de chienne !» Excusez-moi, Sur la Kaira. Je disais qu'il découvrit sur son arme pourquoi.
Vraiment trop énervé. Putain, mon pistolet il s'est enrayé. Putain, je suis vraiment trop dégoûté. Putain, mais merde, j'ai même pas pu le zigouiller. Putain, je suis vraiment trop enragé. Putain, avec la princesse il s'est barré. Putain, je suis vraiment estomaqué. Putain, en plus ce connard il zozotait. Putain, j'aurais dû le lapider. Putain, mais j'avais pas de caillou à lui jeter. Putain, sa grand-mère je vais la fister. Putain, mais je suis perdu comme un con dans cette forêt. Putain, je suis vraiment tourneboulé. Putain, mais pourquoi ce gun il a foiré. Putain, je vais vous le dire mes petits biquets. Putain, parce que sur ce putain de pistolet, putain, quelque chose était marqué. Putain, en grosses lettres était indiqué. Made in China. Pourquoi quand ils fabriquent quelque chose, les enculés s'appliquent pas, s'appliquent pas, s'appliquent pas. Made in China. C'est pas comme s'ils étaient esclaves, ils ont quand même une paye à la fin du mois. Made in China. Même si celle-ci ne leur permet que de manger 30 bols de riz par mois. Made in China. À cause de j'ai pas pu tuer Tarabus et la princesse, c'est triste mais elle est plus là. Putain. J'en ai marre de voir tous ces arbres, ça me casse les couilles. Putain, en plus y'a pas de gibier, j'ai rien dans les fouilles. Putain, saloperie d'enfants chinois qui savent pas travailler. Putain, saloperie de gun chinois qui s'est enrayé. Putain, même autant de jadis tout est délocalisé. Putain, les petits chinois nous ont tous paupérisés. Putain, et les riches continuent de se baffrer. Putain, ils donnent rien pour mon royaume, ces enculés. Putain, en plus le matériel il est tout pourri. Putain, on peut pas tuer deux types avant que le compte soit fini. Putain, ils mériteraient de manger encore moins de riz. Putain, et des coups de fouet jusqu'à la fin de leur vie. Putain, et Tarabus il était avec la princesse. Putain, il doit humer le doux parfum de ses fesses. Putain, et moi je peux même pas me suicider. Putain, à cause de ce gun dessus y'a marqué Made in China. Pourquoi quand ils fabriquent quelque chose, les enculés s'appliquent pas, s'appliquent pas, s'appliquent pas. Made in China. C'est pas comme s'ils étaient esclaves, ils ont quand même une paye à la fin du mois. Made in China, même si celle-ci ne leur permet que de manger 30 bols de riz par mois.
made in China.
À cause de j'ai pas pu Tarabus et la princesse.
C'est triste, mais
elle est plus là.
Acte 3, scène 2. Vu le nombre de jurons prononcés dans cette chanson par le Sieur Lacaïra, on peut en déduire qu'il est possible que sa malchance soit due au nombre incalculable de gros mots qu'il peut prononcer en une seule chanson. Pendant ce temps, Tarabus, lui, était aux anges. Il en était sûr, il avait trouvé sa princesse. Elle était parfaite, mis à part le fait qu'elle n'ait pas de prénom. De toute manière, il lui avait déjà trouvé un sobriquet pour quand il serait plus intime. Un sobriquet d'amoureux, il l'appellerait Bobonne. Il s'y voyait déjà en sa compagnie, dans son palais, lui organisant des joutes équestres, elle nettoyant avec sa mère le vaste château du royaume de Navarin d'Agneau et de la Blanquette de Veau et Champ de Grue. La princesse avait été très impressionnée par la hardiesse de Tarabus au combat, tant impressionnée qu'elle avait du mal à le regarder. Elle avait surtout du mal à le regarder dans les yeux, de peur de rire de son défaut de prononciation. Malgré cela, elle se dit que tout de même, son armure lui donnait un joli galbe. De plus, son armure était beaucoup plus classe que le survêtement de sport porté par le Sieur Lacaïra. Ils commencèrent tranquillement à discuter. Tarabus voulut cueillir des fleurs pour les offrir à sa future bobonne. Cependant, dans la forêt de l'oubli, on trouve uniquement des arbres. De plus, ces arbres sont tous identiques. Sans oublier que Tarabus est effrayé par les arbres. Bravant sa peur, il décida de cueillir la feuille de l'un de ces arbres et de l'offrir en présent à la princesse. Celle-ci fut très touchée par cette attention très maladroite, mais elle n'osait toujours pas le regarder dans les yeux. Tarabus décida donc d'entreprendre une danse afin de la charmer. La princesse n'y était pas insensible, mais n'osait toujours pas le regarder dans les yeux. Le fougueux Tarabus ne savait qu'entreprendre pour percevoir le regard de la princesse. Il courait partout, puis il tenta de raconter une blague. « Alors, c'est un enfant qui conduit un camion. À ton avis, à quelle vitesse qu'il va ?» La princesse tenta en vain d'étouffer un petit rire, moquant le défaut de prononciation de Tarabus. Puis elle lui répondit. « Je ne sais pas, 50 km/h ?» C'est alors que Tarabus lui asséna la chute. « Ben non, triple buse, il avance pas, il peut pas atteindre les pédales, il est trop petit, c'est un enfant. » Tarabus retomba de nouveau dans l'estime de la princesse, tant cette blague était nulle. C'est pour cette raison qu'il décida de tenter le tout pour le tout. À ce moment, il sortit son gros corps de chasse.
« Madame la princesse, veuillez accueillir par la présente l'expression de mes sentiments les plus magnifiés à moi, mon humble personne et sarmante de Tarabus, roi de Navarin d'Agneau et de la Blanquette de Veau et Sainte Grue. Veuillez accueillir cette expression maintenant. » Tabadabadabada, papa. Madame la princesse, vous êtes resplendissante. Que donnerais-je pour une caresse de vos mains charmantes?
Tarabus, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Je ne vous connais encore pas, faisons les escargots de Bourgogne.
Oui, je mélangerai bien mes antennes avec les vôtres. Dans mes yeux, regardez bien, je suis fertile tel l'épôtre.
Je ne peux vous regarder, je n'en sais la raison. Mais vous me saurez toucher par ces marques d'affection.
Suis un homme comme les autres, je vous prie, ma princesse. Faisons maintenant éclore l'épôtre avant que se ternisse votre jeunesse. Tabazabazabaza, sabarada, rapaza.
Tabarabarabada, tapapapapa. Pa 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 pa.
Sabarabarabaza, sa 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 pam 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 pam. Ma princesse, mais que dois-je faire pour
décroché. Un regard simple primaire, puis vous embrasser.
Vous en faites vraiment beaucoup, mais je ne puis toujours pas. Oh non, vraiment pas de tout, vous venir dans vos bras.
J'ai joué ma vie au combat contre ce sieur la Caïra. Pour vous avoir à mon bras, alors maintenant venez là.
Vous m'avez apprivoisé, je crois bien que désormais vous allez être honoré, je vais vous regarder. Oh, oh, mais c'est immonde. Oh, oh, mais vous n'avez pas de dents devant.
Eh oui, mais c'est pour ça que je parle comme ça. Peut-être.
Oh, mais c'est immonde. Oh, reviens, princesse. Reviens. Princesse, reviens. Oh, reviens, princesse.
Acte 3, scène 3. Nos trois personnages ont désormais pris des chemins différents dans la forêt de l'oubli. Tous tentèrent d'oublier ce qu'ils avaient vécu car se sentaient seuls désormais. Terriblement seuls. Tous avaient eu un espoir déçu. Ces instants de bonheur, ils auraient préféré ne pas les vivre car à cet instant, ils ne seraient pas aussi malheureux. Auparavant, ils n'avaient jamais reçu autant d'amour ou même simplement croire en recevoir. Mais ils savaient aussi que dans la forêt de l'oubli, il est très difficile de croiser quelqu'un. Ils n'avaient plus que leurs souvenirs. Souvenirs qu'ils ne pouvaient plus partager avec personne excepté avec ces arbres tous similaires de la forêt de l'oubli. Tout à coup, retour d'une interjection permettant de faire croire qu'un événement est survenu. Oui, tout à coup, Tarabus, notre roi de Navarin d'Agneau et de la Blanquette de Vaux et Champs de Grue, tomba nez à nez avec le cadavre de, et en toute simplicité, que le sieur La Caïra avait tué au début de l'histoire car il avait chanté une chanson dans laquelle il insultait les morts. À ce moment, Tarabus se dit que lui aussi devait le rejoindre au pays des morts. Même l'enfer serait plus sympathique que cette maudite forêt de l'oubli. Il sortit donc sa clinquante épée de son fourreau. Sur le manche de cette épée se trouvaient des dés en mousse ainsi qu'un sapin des œufs d'horizon. En effet, Tarabus était très coquet. Il décida donc de planter son épée dans son ventre pour se suicider tel un kamikaze. Oui, l'on connaissait l'existence des kamikazes au temps d'à peu près jadis autour de Jésus-Christ. Cependant, au moment où la lame commençait à percer la peau de Tarabus, celle-ci se fendit. Tarabus, excédé, ramassa le bout de lame d'un chrome éclatant et le regarda. Tout à coup, il s'écria. « Aïe, cornevidouille ! Me suis brûlé la rétine avec un reflet du soleil du bout de ma lame cassée, dis donc !» Puis il lit à voix haute ce qui était inscrit sur cette épée. « Made in China !» Soudain, retour de nouveau du mot de liaison qui a dit qu'un événement va surgir dans vos enceintes. Une idée lumineuse traversa l'esprit de Tarabus. Par le biais de la magie noire, il pourrait appeler le fantôme du cadavre. Il se saisit donc de son corps qui n'eut jamais l'air aussi maléfique.
Par la présente, fantôme de la dépouille qui vit à mes pieds, je te demande de me répondre. À moi, Tarabus, roi de Navarin d'Agneau et de la Blanquette de Vaux et Sainte-Grue. Réponds-moi après cette invocation. Invocamus. 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 Invocamus.
Invocamus, yeah. Invocamus. Invocamus, yeah.
Invocamus,
hein. Invocamus, yeah. Invocamus. Invocamus, yeah.
Invocamus.
Invocamus, hein. Invocamus. Invocamus, yeah.
Invocamus.
Invocamus, yeah. Invocamus, hein. Invocamus, yeah.
Invocamus.
Invocamus, yeah. Invocamus. Et explique-moi, Tarabus, ça veut dire quoi? Invocamus. T'aurais dû le deviner, c'est facile. Maintenant, laisse-moi donc tranquille. Pourquoi tu chantes comme une tapette, t'as perdu tes coucougnettes, c'est la princesse qui t'es a bouffé. Ouais, t'es bien pu s'en aller, ça m'étonne pas qu'elle veuille pas toi avec ta tête de merde, mon gars, mais de la merde. Couleur cacadois. Arrête donc
de m'insulter. C'est pas gentil, en plus c'est moi qui ai gagné le combat qui nous opposait. Laisse-moi finir ce que j'ai commencé. Ok, je te laisse finir ce que t'as entrepris, mais je te l'annonce d'avance. Je resterai ici, ça a l'air sympa tes petites manigances. T'inquiète, je reste là, je me tégé de l'élégance. Invocamus. 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 Invocamus.
Bonjour, je suis le fantôme de Et en toute simplicité. Vous m'avez invoqué, que puis-je faire pour vous aider?
J'aimerais beaucoup que vous fassiez revenir la belle princesse que j'ai pu voir partir.
Rien n'est impossible pour le fantôme de Et en toute simplicité. Je vais donc invoquer cette princesse par le pouvoir du disque lunaire. J'invoque la princesse qu'a pu voir partir le jeune Tarabus.
Oui, je suis là et je m'offre à vous trois. Prends-moi sur la Kaira, oh Tarabus aussi. Prends-moi et prends-moi aussi le fantôme du type que je connais pas.
Excusez-moi, jeune dame, mais en tant que fantôme, je suis volatile telle une flamme. Et vous pourriez dire home sweet home si vous mieux suiviez. Mais sans ces deux bonnets, et si vous m'épousiez, alors vous pourriez rentrer, rentrer, rentrer. Je suis le fantôme de Et en toute simplicité. Rentrer, rentrer, yeah.
Le fantôme de Et en toute simplicité aida la princesse à regagner ses terres. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, mi-hommes, mi-fantômes. Quant aux sieurs Lacaïra et Tarabus, ils s'entretuèrent dans un sanglant combat de griffures.
Aïe! Ah, mais ça me fait mal! Vas-y, putain de ta race, je te griffe ta race! Vas-y, ça me fait mal, c'est pas gentil, c'est pas gentil!
La seule émission qui n'a pas de nom!
C'est l'émission qui n'a pas de nom, c'est bien, parce que c'est dans tes oreilles. Cool, hein? Bah, ça a pas de nom. Ça a pas de nom. Comment ça? Ça a pas de nom. Ça a pas de nom.
Bon, pas de nom.
Ça a pas de nom.
Bah, ça a pas de nom. C'est n'importe quoi. Bon, bah, c'est n'importe quoi. Ça a pas de nom, quand même. Hé, quoi?
Tabalapapa.